On va terminer de la politique. Léo Ferret, tout à l'heure, vous évoquiez les affaires lamentables de l'actualité. Est-ce que la politique, tout de même, vous retient votre attention lorsque... Est-ce que vous feuilletez un journal, souvent ?
Oui, je le feuillette mal, parce que je ne sais pas lire le journal. Mais
Vous pensez qu'il faut savoir lire le journal ?
Non, il vaut mieux ne pas savoir le lire. Mais je voudrais vous dire quelque chose comme ça, que je ne sais pas bien m'exprimer sur cette chose-là, mais M. Pinet, tout à l'heure, a fait des remarques intelligentes. Et il a parlé à un moment de fraude fiscale et tout ça. Mais vous savez, moi, je me suis intéressé beaucoup à ça, pour des raisons que vous comprendrez. Et un jour, je sais que les recettes, c'est-à-dire bon, les taxes, les impôts... L'impôt sur le revenu, c'est entre 18 et 22% des recettes totales. Ce qui est extraordinaire. Alors, les recettes totales, qu'est-ce que c'est ? C'est tout le reste. Tout ce que les gens payent, n'est-ce pas ? Et les gens ne gagnent pas leur vie. Ça, c'est connu, c'est un lieu commun. Bon, alors.
On va toujours gagner plus, c'est évident.
Oui. Non, les gens sont emmerdés par cette histoire d'impôt. Et moins les gens gagnent d'argent, plus ils sont emmerdés, bien sûr, parce qu'il faut y compter avec ça. Et on leur prend beaucoup d'argent. Et alors, j'ai vu le budget d'une année, comme ça, j'ai regardé le budget. Alors, les recettes et les dépenses, ça c'est extraordinaire, c'est le même chiffre, c'est formidable. C'est extraordinaire, hein. Vous avez vu, on prend l'argent, puis on dépense aussi. Mais, c'est là, et vous, c'est intéressant, je me suis dit, bon, alors j'enlève des impôts, là, comme ça, j'enlève donc des recettes. Et en même temps, j'enlève des dépenses, que je pensais inutiles. Que je pensais vraiment inutile. C'est aussi un lieu commun de dire que les dépenses, la plupart des dépenses du budget des armées, c'est inutile, n'est-ce pas ? C'est vrai, ça.
C'est une opinion.
C'est pas être subversif que de dire ça. C'est la vérité. Il n'y a plus de guerre maintenant. Alors, vous permettez. Je suis arrivé. Et alors, je me suis dit, je crois qu'on pourrait vraiment amoindrir les taxes, c'est-à-dire vendre le paquet de cigarettes, vraiment un prix modique, descendre vraiment très bas le prix de l'essence, parce que qu'est-ce qui se sucre pour l'essence ? C'est tous les mecs qui transportent l'essence et l'État qui prend un maximum.
Bon, et d'accord. Alors
j'avais trouvé un truc formidable, c'est que il n'y avait plus d'impôts pour personne.
C'est un projet de société, ça ?
Eh oui, c'est pas mal. Réfléchissez bien.
Ben, il va falloir y réfléchir, peut-être, effectivement. Vous aimez le Beaujolais, Léo Ferret ?
Moi, je ne suis pas un grand buveur, mais ça dépend des années, comme le disait monsieur. Chaptalisé, je ne comprends pas.
Ben, vous savez, c'est la méthode mise au point par Chaptal. On sucre plus ou moins un vin afin de permettre ça. Ça, c'est légal, ça
je
connais.
Moi, je suis absolument contre ça.
Ben, il paraît que ça permet de le transporter, en tout cas, tout en lui conservant ses qualités premières.
Bien sûr. Pourquoi transporter le Beaujolais ?
Moi, je suis d'accord pour qu'on aille tous le boire sur place. Il n'y a pas de problème. Enfin, on fera le voyage la semaine prochaine. Vous vous intéressez au prix littéraire, Léo Ferret ?
Non, je ne m'intéresse pas. Vous savez, évidemment...
Comme vous ne surprenez qu'à moitié.
Tout le monde, il y a des années, c'était le prix Goncourt, c'était une chose importante, enfin, se mettait le projecteur. Seulement, ce qui est embêtant, voyez-vous, c'est que... Par exemple, je vous raconte une histoire. Tout le monde sait que Proust avait édité à compte d'auteur. Compte d'auteur, ça veut dire que l'auteur paye lui-même aux éditions Grasset, c'est-à-dire qu'il avait donné l'argent aux éditions Grasset en 1913, avec du côté de chez Swann. Et puis après, il y a un éditeur qui a pris les lunettes comme ça, il s'est dit « Ouh, c'est intéressant, c'est Gallimard, n'est-ce pas ?» On le retrouve assez souvent, d'ailleurs, Gallimard, surtout pour les prix Goncourt, il faut bien le dire.
Bah, il sort beaucoup de choses.
Parce qu'il y a beaucoup de types de chez Gallimard dans les prix Goncourt, dans le jury, vous savez. Les choses, il faut qu'elles
soient... J'avoue que j'ai pas creusé.
J'ai creusé beaucoup et je sais, bon. Et alors, en 1919, je crois qu'on avait donné le prix Goncourt à l'homme des jeunes filles dans Fleurs, parce que là, Gallimard avait tout racheté. Bon, et puis on n'a pas donné le prix Goncourt, tout de même, au voyage au bout de la nuit, vous comprenez. Alors, quand un jury de prix, c'est bien, mais quand il se trompe, ça va pas. Ah, voilà.
Merci Lescure. Léo Ferret, nous restons ensemble encore une petite demi-heure.
Oui.
Hein ? À quelle heure est votre spectacle au Palais des Congrès ?
Ce soir, rien.
Ce soir, rien ?
Non, ce soir, il y a le concert.
C'est pour ça que vous nous faites la gentillesse d'être là.
Ce soir, il y a un concert, l'Orchestre de Paris, c'est pour ça que je ne travaille pas.
On se retrouve dans 2 minutes. <musique> 19h26 sur Europe 1. Qui est naturel. Alors Léo Ferrel n'était pas si lamentable que ça, les informations de cette journée-ci.
Bon, vous savez, les informations, bon, qu'est-ce qu'il faut y faire, c'est comme ça. Hein.
Non, mais ça fait partie de notre vie quand même, c'est ce qui est nous un peu aussi, non ?
Oui, mais vous savez, je pense que les gens, au moins des grandes nouvelles catastrophiques ou formidables ou intelligentes, ce qui est rare, les gens s'en fichent, vous savez, des informations. Vous croyez pas ça? Ils s'en fichent, ils s'en vont. Les gens,
ah, j'arrive pas à le croire, non?
Ah oui, les gens, ils s'en vont, ils ont leur truc, quoi. Leur truc. En ayant fini de boulot, ils s'en vont. Et puis, il y en a qui fait ça, là. Et puis, évidemment, on les viole avec la radio, et puis surtout avec la télévision. Donc, on les prend comme ça. C'est un charme abominable, la télévision. Des fois, c'est bien, mais c'est vraiment le, comme on dit, le flic qui rentre à la maison, et puis qu'on ouvre, et puis qu'on laisse ouvrir, des fois.
Non, moi, ce que je crois, c'est qu'on a des moments de bonheur, éventuellement, avec des gens comme vous, mais qu'on a aussi une vie quotidienne qui dépend de plein de choses, et que donc, toutes ces choses-là, il faut savoir où on en est de temps en temps, que ça intéresse les gens, non?
Oui, mais on demande, ça va? Oui, ça va. Oui, c'est tout, les gens s'en fichent.
Mais ça va pas, pourquoi? Bah, parce que j'ai une fin de mois difficile. Pourquoi t'as une fin de mois difficile? Bah, parce que j'ai payé plus d'impôts. Pourquoi t'as payé plus d'impôts? Bah, parce qu'il y a eu un budget différent et c'est on arrive vrai. Très vite à l'information.
Non, c'est pas vrai ça. Non, comment ça va? Ça va? Très bien. Ouais. Ça va? Non, ça va pas, ma femme m'emmerde, c'est ça.
Vous connaissez ce jeu un peu bébête qui a cours en ce moment dans les salles de dans les cours de récréation? Non. C'est le jeu du pourquoi. C'est partir d'une question très bête comme pourquoi fumez-vous? Et puis on répète toujours pourquoi. Alors je sais pas, je peux vous demander pourquoi chantez-vous?
Ouais.
Pourquoi chantez-vous, Léo Ferré?
Ben comme ça, quoi.
Pourquoi?
Ben comme ça.
Ben non, on va avoir du mal, là.
Ça m'énerve, ça, vous savez.
Hein, c'est énervant.
Ah, ça m'énerve.
Comme mais c'est les enfants qui jouent.
Oui,
à
mais
ça.
Les enfants, c'est, vous savez, le jeu.
Vous avez une tendresse pour les enfants.
On répète, oui. Donc, vous savez, alors présentation, vous dites, par exemple, je lis votre truc là. Présentation de l'émission, je dis, mais, présentation de l'émission. Vous dites, titre de l'actualité. C'est abominable ça. Hein. C'est un jeu dégueulasse. Hein.
Alors attendez, on va continuer le jeu dégueulasse. Oui. Pourquoi êtes-vous là ce soir, Léo Ferré?
C'est pour la promotion du Palais des Congrès où je passe depuis le 7 novembre et vraisemblablement jusqu'au 30 novembre 1975.
Alors continuons, bah, essayons de faire le jeu. Pourquoi passez-vous au Palais des Congrès?
Je passe au Palais des Congrès parce que c'est une grande salle pour que tous les gens qui m'aiment puissent venir. C'est une salle qui mesure 3700 personnes et je pense que ce sera trop petit pour moi. Voilà.
Pourquoi pensez-vous que les gens qui vous aiment doivent venir vous voir?
Et parce que ça leur fait plaisir, c'est aussi beau que l'information.
Ouais. Et pourquoi ça leur fait plaisir?
Parce qu'ils m'aiment.
Vous allez voir qu'on va arriver à l'existence de
Dieu. Non, parce qu'ils m'aiment bien, et moi je les aime aussi, parce que j'aime, je ne les connais pas, mais ce que je le fais avec tout mon cœur, et puis les gens qui viennent, au moins je pense quand ils m'entendent, je le sens bien. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, moi je suis évidemment orgueilleux et tout ça, je dis que des fois, ça m'est arrivé quelquefois, pas toujours, des fois il y a des bruits, même des brouhahas, mais des fois, une fois à Rouen, je suis passé l'année dernière au mois de novembre, et j'avais peur parce que c'est une grande salle. Des sports, une sorte de palais des sports, il y avait 3500 comme ça, vous savez, quand il y avait 3500 comme ça, ça fait l'impression. Eh bien, on n'entendait même pas les mouches voler, vous savez pourquoi? Parce qu'elles m'écoutaient aussi.
On va arrêter là le jeu du pourquoi, qui est toujours une petite astuce bébête, mais c'est vrai que les gosses aiment bien jouer à ça, alors c'est pour ça que...
Pourquoi vous parlez à la radio?
Hein?
Pourquoi vous parlez à la radio?
Vous n'avez pas recommencé parce qu'on m'a déjà fait le coup l'autre jour, on me l'a renvoyé. Parce que j'aime ça, je trouve ça intéressant.
Pourquoi vous avez quitté Antenne 2?
Parce que j'ai trouvé ça plus intéressant ici. Ouais.
Pourtant, ben, les gens qui vous voient, vous êtes un beau garçon, c'est bien.
Ça passe pas à la télé, mais à la radio, comme c'est ça. Pas grave. Ouais.
Ah, non,
mais... Bon, l'extrait du concerto pour la main gauche de Ravel, dirigé par vous, pourquoi précisément cette pièce?
Parce que c'est une œuvre gigantesque que les gens connaissent mal, parce que c'est l'œuvre de sa propre mort, c'est une danse macabre extraordinaire, et puis c'est spectaculaire aussi parce que c'est très difficile à jouer, c'est le pianiste qui s'appelle Daga Schatz qui est un pianiste suédois. Alors c'est marrant parce que un critique, je crois en Suisse où j'avais joué, avait dit c'est un pianiste suédois, il joue très bien mais il a un jeu froid, or il joue comme un Sicilien ce mec. Alors froid parce qu'il était suédois, ouais, mais vraiment, et ça et puis c'est une œuvre comme ça que j'ai écouté, j'étais petit encore et ça m'avait frappé beaucoup, quoi. Voilà.
Ben, je propose à ceux qui sont à l'écoute de cette émission de passer un petit moment avec cet extrait du concerto pour la main gauche de Ravel dirigé par Léo Ferré. Est-ce que ça se dirige vraiment une main gauche d'un monsieur Léo Ferré?
Ah, vous savez, on dirait d'abord qu'il y a 2, 3, 4, 10 000 mains. Hein. Mm-hmm. C'est écrit d'une façon extraordinaire. Et puis pour jouer ça, vraiment, il faut vraiment travailler longtemps. Non seulement avoir du talent, mais une technique irréprochable.
Qui joue là?
Daga Schatz, ouais. Le Suédois qui joue comme un Sicilien.
Ouais. Mais comment vous avez pu... Je me demande toujours comment on dirige quelqu'un en matière de musique, et puis encore plus peut-être dans votre cas, comment vous l'avez dirigé par exemple sur cette interprétation?
Ben vous savez, on est derrière, là il joue tout seul, c'est la dernière cadence, ouais. Mais l'orchestre doit être derrière le soliste, ouais. Bien sûr.
On est un soliste, on peut le diriger aussi?
On le sert dans un soliste, non, on sent.
On le sert plutôt.
Il faut le servir, bien sûr, avant tout. Mm. Mais vous savez, je dois arriver à faire passer le large extrait du Costa pour la main gauche de Maurice Ravel à cette heure-ci à Europe. Moi, je suis très heureux, et puis c'est rare. Hein.
J'en suis conscient également, figurez-vous.
Et puis c'est les gens qui décrochent pas. Il ne faut pas arrêter là, hein. Il faut écouter ça, c'est beau.
Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut expliquer aussi un peu. Hein.
Ah oui, parce que c'est extraordinaire. Vous savez, les gens, il faut leur montrer aux gens. Comment on leur met dans l'oreille des tas de chansons que. Je ne veux pas parler de leur bleu, puisque leur bleu, on ne pense que des choses intelligentes. Enfin.
Bah, écoutez, au moins, on oblige les gens à faire des choses intelligentes depuis 2 heures.
Oui, merci, monsieur. Quand on oblige les gens à écouter les choses comme ça, hein, facile, quoi. Je crois que si on obligeait les gens, pas obligés, si on mettait les gens, comment dirais-je, dans la situation d'entendre de belles choses, vous mettez, je disais tout à l'heure à une femme de radio, vous mettez la Veverum de Mozart dans les jukebox, et bien les gens aimeraient la Veverum de Mozart, parce que c'est formidable, vous comprenez. C'est tout de même mieux que ce qu'on entend trop souvent, vous comprenez, c'est vrai ça.
Vous me faites un grand plaisir quand vous dites que c'est formidable d'entendre ce concerto pour la main gauche à 7h30 sur Europe, et c'est vrai, on en est conscient, on aime
oui,
ça.
Oui, c'est ouais. En tout cas pour 9
merci
minutes.
Merci en tout cas de nous avoir donné
et
l'occasion.
Et en tout cas, c'est pour 9 minutes, votre honneur, merci. Ouais.
Dites-moi, alors vous avez autre chose qui est, disons, qui est intéressant, c'est votre goût pour l'imprimerie. Et alors ça aussi, c'est encore un complément du personnage Léo Ferré, parce qu'on parlait de la danse tout à l'heure en disant peut-être qu'un spectacle complet, c'est aussi la chorégraphie. Mais peut-être qu'une démarche de l'esprit complète, c'est aussi l'esthétique et écrire des choses et les imprimer. Et vous avez fait ça. C'est-à-dire que finalement, le programme, je crois, du Palais des Congrès, vous l'avez imprimé vous-même, ou du moins vous l'avez
oui,
préparé.
Oui, mais vous savez, moi j'ai toujours aimé les choses reproduites comme ça, j'ai toujours aimé les caractères, toujours aimé la typo, les beaux caractères. Et un jour, je suis toujours plein d'admiration pour les gens qui font des choses avec leurs mains. Et il y en a beaucoup, il y en a des millions. Hein. Et moi, je sais écrire avec ma main. Bon, je me sers de ma main pour manger, pour écrire. Et je voulais faire quelque chose. Être un peu manuel, comme on dit, et évidemment, j'ai fait de l'imprimerie, souvent les mains pleines d'encre.
Donc, mais ce goût pour l'imprimerie, il est récent ou il est...
Non, ça remonte très 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 loin, et quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai pu acheter des machines plus importantes. Et...
Disons, il y a combien, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années?
Il y a une quinzaine d'années, oui, il y a 20 ans.
Alors vous êtes installé une sorte de petit atelier à vous ou quoi?
Oui, c'est même un grand atelier. Et puis ouais. Ce qui est embêtant, c'est que c'est moi qui fais tout, parce qu'à la maison, on m'aide pour les choses simples, mais pour les machines importantes, vous savez, il y a un truc que les gens ne savent peut-être pas, mais l'offset, c'est une chose abominable, parce que le mouillage, il faudrait raconter ça aux gens. Et alors, c'est très difficile, parce qu'on se trompe. Et puis alors, ça va très vite, ça va tellement vite. Alors je dis, c'est formidable, on allume une cigarette. Le temps d'allumer une cigarette, vous revenez, il y a 200 pages foutues. Ouais. Tellement ça va vite, parce que vous avez mal fait, parce que moi je ne suis pas un technicien.
Mais je vous présente un technicien qui est à votre droite, qui s'appelle Luc Paget. Vous êtes de ce qu'on appelle graphiste, c'est ça?
C'est ça, je suis graphiste.
Qu'est-ce que c'est un graphiste?
Un graphiste, c'est quelqu'un qui dessine, qui exprime une idée. Mon boulot, c'est la publicité. Ouais. Et donc, exprimer une idée, vendre un produit en l'exprimant d'une manière dessinée. Quoi. Ouais.
Mais du point de vue de l'impression elle-même, ce que vous aimez finalement, Léo Ferré, c'est quoi? C'est prendre un thème que vous avez dessiné ou un dessin qui vous a plu et essayer de le reproduire, c'est quoi?
Non,
comment on peut se passionner pour l'imprimerie?
C'est le beau papier, puis l'imprimerie, c'est extraordinaire, c'est un moyen de communication éternelle. Et ça reste, quoi. C'est beau, un beau livre, c'est beau.
Je crois qu'il y a beaucoup d'imprimeurs et des gens qui travaillent sur les machines elles-mêmes.
Ah, mais les imprimeurs sont toujours passionnés. Tous les imprimeurs sont passionnés par le métier. D'ailleurs, syndicalement et même extra-syndicalement, ce sont les gens qui se défendent le mieux.
Oui, d'ailleurs, on a vu dernièrement, avec le Parisien libéré, l'expression même de cette force syndicale, avec la lutte qui vient de se terminer.
Mais justement, la lutte et la force syndicale correspond peut-être justement à un goût pour un métier qui est très profond, non,
j'imagine. Oui, ça correspond à l'esprit du livre. Ouais. Les gens qui aiment leur métier, ce qui est relativement rare maintenant, l'avantage de faire un métier justement où on peut communiquer avec les gens sans avoir à leur parler, par ce qu'on imprime et par ce qu'on fait, et par la communication énorme que ça représente.
Je ne connais pas grand-chose à l'imprimerie, mais il y a une chose qui m'a toujours impressionné, c'est ces fameux petits encriers qu'on tourne d'un quart de tour pour avoir telle ou telle couleur. Oui, ça correspond à quel moment, ça?
Quart de tour, des fois, c'est le huitième.
Non, si vous voulez, dans l'impression, si vous voulez, sur une surface comme ça, si on passe un
comme
rouge...
Comme ça, c'est, avec vos mains, ça fait un mètre à peu près. Hein.
Ouais, Si on passe un rouge, le rouge n'a pas la même densité partout. Ouais. Alors, il faut donc réduire les débits d'encre sur certains endroits pour avoir des transparences ou pour avoir un rouge plus ou moins violent. Quoi. Mmh. Et ça, c'est toute la technique du type qui est sur la machine. Et c'est là, justement, où le manuel entre en jeu. C'est-à-dire que la technique ne fait pas tout. Mmh. Hein, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour corriger les erreurs de la machine.
C'est ce qui vous a fasciné, Léo Ferré, ça?
Oh non, parce que c'est difficile. Ouais. Oh là.
Vous faites de la couleur, vous?
Je fais une couleur comme ça, mais jamais les quatre couleurs. Ça, ouais. C'est
difficile. Alors qu'est-ce que vous faites comme technique? Parce que bon, parlons un peu technique. Pas d'offset?
Alors je crois que oui, monsieur Léo Ferré fait de l'offset.
Moi, je fais l'offset et puis il y a la typo sans plomb. Ouais. Vous savez ce que c'est que la typo sans plomb?
Non, mais vous allez m'expliquer.
La typo sans plomb, c'est des plaques présensibilisées et qui laissent le texte en relief, comme le plomb.
Ce qui permet d'ailleurs de tirer tous les journaux, etc. Mmh.
Voilà. Ça permet d'archiver des trucs, comme on dit.
Est-ce que c'est vraiment un travail manuel, finalement? Parce que bon, les mains servent à quelque chose.
Mais tu parles.
Ouais. Ou bien enfin, c'est la machine qui fabrique, quand même.
Oui, mais enfin, il faut être là, hein, parce que sinon... Ouais.
La machine ne peut pas fabriquer toute seule. Ouais. Il faut quelqu'un pour la diriger.
C'est l'intelligence sur une machine, non?
Un peu, si vous voulez. C'est comme un orchestre sans chef. Ça ne peut pas jouer un morceau.
Ah, vous avez trouvé une bonne comparaison là, avec Léo Ferré. Bien, ben voilà pour l'un des goûts de Léo Ferré. On va faire un petit tour du côté du téléphone rouge. Et ensuite, on retrouve Léo avec ce qui sera peut-être la conclusion de cette soirée. Et je m'en réjouis à l'avance. Love, qu'est-ce que c'est, Léo?
Love, c'est une chanson que m'a demandé, je l'ai faite toujours occasionnellement, parce que Jean-Pierre Chabrol a fait une émission qui s'appelle La Malparole, que je vous engage vraiment à regarder cette émission, sur notre langue, sur la langue française, et il m'avait demandé de faire une chanson, faire quelque chose pour le générique, et alors j'ai fait une chanson qui s'appelle Love, c'est-à-dire, évidemment, amour, et je pense que c'est la parole la plus mâle de la langue.
Vous voyez comme il y a des choses extraordinaires ce soir dans cette émission. On a écouté du Ravel longuement et on écoute des chansons de 10-12 minutes avec vous, ce qui n'existe jamais sur cette antenne et ce qui existera peut-être, je l'espère, de temps en temps. C'est le cas de Love, avec laquelle on va terminer l'émission. Merci Léo Ferré d'être venu ici. En direct de ce studio, Léo Ferré. Love, L-O-V-E.
Cette parole que j'attendais sans te connaître, que j'accrochais à ma fenêtre, qui traînait pas dans les affaires des gens qui me faisaient la guerre. Cette parole dans mon vocabulaire, de quoi t'apprendre les manières, oh. cette parole qui traîne au nez des catastrophes, qui vaut bien 110 000 strophes, qui te suffit quand je la chante, qui coule en toi quand je t'enchante, cette parole qui fait du vice la vertu. Dans la rue, cette parole, là, là, là. Cette parole que tu syllabes après la fête, qui met la fête dans ma tête, et puis ta tête dans la mienne, et puis ma tête dans la tienne, cette du dictionnaire où elle n'avait plus rien à faire, cette parole. Cette parole qui peuple notre solitude, qui meurt au seuil de l'habitude, qui se fait avant de se dire, qu'on dit quand il n'y a plus rien à dire. Cette parole qui fait les hommes fraternels, qui sort les filles des bordels,
cette parole comme une arme contre l'offense, comme un sourire du silence, comme un passeur de l'autre monde, comme un destin qui fait sa ronde. Cette parole comme la raison qui pâlit, comme le prix de la folie. Cette parole, comme une porte sur le large, comme mon texte dans ta marche, comme tes yeux dans mon ramage, comme moi dans ton fuselage. Cette salaire du rêve, et comme le pavé qui lève,